Le Monténégro, confronté depuis fin décembre à un mouvement de contestation inédit. Chaque jeudi et chaque dimanche, des dizaines de milliers de personnes descendent en procession dans les rues de toutes les villes du pays. Bonjour Jean-Arnaud Derains.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant dans la région. Qu'est-ce qui a provoqué cette révolte des fidèles, Jean-Arnaud ?
Eh bien, c'est la nouvelle loi sur la liberté religieuse qui a été adoptée le 26 décembre dernier par le Parlement monténégrin, d'ailleurs déserté pour l'occasion par les députés de l'opposition, qui a mis le feu aux poudres. Cette loi fait obligation à l'Église orthodoxe serbe de présenter les titres de toutes ses propriétés, faute de quoi celles-ci seront placées sous l'autorité de l'État. La puissante Église dénonce une loi discriminatoire car les autres communautés religieuses avec lesquelles l'État a déjà passé des accords spécifiques ne seront pas soumises à la même obligation. Le Monténégro est un pays multiconfessionnel où vivent des musulmans et des catholiques. La grande majorité de la population est néanmoins orthodoxe et reste principalement fidèle à l'Église serbe, même s'il existe aussi une petite Église monténégrine qui prétend à l'autocéphalie, c'est-à-dire à l'indépendance. L'Église serbe soupçonne le gouvernement de favoriser cette Église monténégrine et de vouloir obtenir sa reconnaissance canonique. Dans le monde orthodoxe, en effet, les églises sont toujours perçues comme des piliers de l'identité nationale.
Mais alors, ces foules énormes qui défilent deux fois par semaine, est-ce qu'elles sont uniquement composées de fidèles, Jean-Arnaud ?
Certainement pas. Et l'Église est d'ailleurs la première à le reconnaître. Si les pratiquants réguliers sont bien sûr très mobilisés, on trouve aussi beaucoup de gens qui ont une relation plus lointaine à l'Église, mais qui considèrent que celle-ci fait partie de leur identité. Pour beaucoup de manifestants, cette appartenance confessionnelle n'est d'ailleurs pas contradictoire avec leur identité monténégrine. En réalité, beaucoup de gens utilisent même ces processions pour exprimer leurs frustrations sociales et politiques dans un pays travaillé par de très fortes inégalités sociales, où l'exode à l'étranger est trop souvent la seule perspective qui s'offre aux jeunes, et où la même élite politique corrompue est au pouvoir depuis 30 ans. L'Église tient néanmoins à garder le contrôle du mouvement. Elle a réussi à tenir à distance les partis de l'opposition. Les slogans et les insignes politiques sont interdits. Et c'est donc derrière des bannières et des croix de procession, en chantant des hymnes et des cantiques, que les Monténégrins défilent deux fois par semaine. Dimanche dernier, ils auraient été 200 000 dans tout le pays, selon l'Église. La police, certes, n'a compté que 66 000 personnes. Mais ce chiffre reste énorme dans un pays qui compte à peine 600 000 habitants.
Est-ce que les hymnes, les cantiques sont susceptibles de faire vaciller le régime du président Milo Djukanovic, un président qui semblait jusque-là inamovible ?
Eh bien oui, la question est désormais posée. Tous les observateurs s'accordent pour reconnaître que Milo Djukanovic a peut-être commis la première erreur sérieuse de sa longue carrière politique en sous-estimant la capacité de mobilisation de l'Église. Après avoir d'abord traité le mouvement par le mépris, le régime vient de proposer l'ouverture d'un dialogue, mais l'Église exige en préalable le retrait de la loi. L'espace pour un compromis est donc très étroit pour le moment, et le métropolite Amfilor Hriye, chef de l'Église orthodoxe serbe au Monténégro, n'a pas l'intention de galvauder l'immense crédit dont il jouit auprès de larges secteurs de la population du pays. En poste depuis près de 30 ans, le métropolite est un habile politicien qui entretient d'ailleurs des relations tendues avec son autorité hiérarchique, le patriarche Irinei de Serbie. À 83 ans, Amfilor Hriye est bien conscient d'avoir rendez-vous avec son propre destin et celui de son Église.
Merci Jean-Arnaud Derains, correspondant régional de RFI.